Jean-Louis Mourier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste chez Aurel BGC. On va parler avec vous de perspectives économiques. Alors, on se projette un peu sur 2013. Ce n'est pas forcément un exercice facile. C'est l'exercice auquel vous vous êtes livré. Quelles sont un peu les grandes tendances? Et avant d'en parler, peut-être un mot de cette année 2012. Est-ce qu'elle a apporté quelques réconforts? Est-ce qu'on a trouvé, est-ce que l'économiste que vous êtes, a trouvé quelques réconforts quelque part dans le monde?
Grosso modo, 2012, réconfort, oui, essentiellement en zone euro, avec notamment le fait que la BCE a fini par quasiment répondre aux attentes des investisseurs, puisqu'ils attendaient un investisseur en dernier ressort. On ne l'a pas tout à fait, mais on a quand même une BCE prête à faire ce qui est nécessaire à ses yeux pour assurer la pérennité de l'euro. Donc c'est un gros progrès qui réduit le stress financier et qui du coup réduit un petit peu l'incertitude pour les acteurs économiques. On y reviendra, je pense, après. C'est un facteur plutôt positif qui a intervenu depuis l'été et on l'a bien vu sur les marchés financiers, quoi qu'il en soit. Il y a eu plutôt des bonnes surprises derrière. Maintenant, on en est, comme d'habitude en Europe, on a parlé beaucoup, on a promis beaucoup. Maintenant, il faut agir et mettre en place les choses qui ont été promises.
Alors, on a vu aussi le dossier grec, on pourrait dire que depuis des années maintenant, ce dossier revient sur les marchés, nouvelles solutions trouvées, nouvelles échéances de dettes. Là aussi, c'est passé et je dirais pour combien de temps, on ne sait pas, mais c'est passé.
Tout à fait. Je crois qu'il y a eu il y a un moment un regain d'inquiétude sur le dossier grec. Effectivement, les chefs d'État européens ont fini par trouver un arrangement pour aller plus loin, pour continuer, pour assurer la Grèce de son maintien dans la zone euro et de la solidarité de ses partenaires dans la zone euro. On a eu aussi dans la même veine, on a entériné le plan de recapitalisation des banques espagnoles, qui était la deuxième épine cette année dans le pied des investisseurs en Europe. Globalement, on a pas mal avancé, mais globalement, on a surtout gagné du temps. On a fait des choses qui permettent d'éviter la catastrophe à court terme, qui permettent de réduire beaucoup la partie stress sur les marchés financiers. Mais la crise, évidemment, de surendettement des États de la zone euro n'est pas terminée, loin de là.
Alors, du côté des États-Unis, on pourrait dire que c'était plus calme jusque-là, jusqu'à ce qu'effectivement, avec la nouvelle élection, le dossier de la falaise fiscale, ce fiscal cliff arrive à nouveau dans les débats. Et là, on revoit les politiques qui ont la main sur la croissance américaine à venir, finalement.
Tout à fait. Le problème du fiscal cliff, il n'est pas nouveau. Tout le monde sait à peu près ce qu'il en est depuis le mois d'août 2011, mais ce n'était pas dans les préoccupations immédiates des investisseurs et des observateurs de l'économie américaine. Aujourd'hui, ça l'est. Les politiques américains ont un petit peu moins d'un mois maintenant pour se mettre d'accord, non pas pour faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de choc, mais pour adoucir ce choc et le lisser dans le temps. Pour l'instant, les déclarations qui ont été faites sont des prises de position de début de négociation, donc évidemment ça a frappé les esprits puisque c'est assez caricatural d'un côté comme de l'autre. À n'en pas douter, comme les Américains ont l'habitude, ils vont trouver un accord autour tout dernier moment. Mais entre-temps, effectivement, ça entretient la volatilité sur les marchés financiers.
Alors, on a vraiment deux stratégies économiques différentes. On va dire qu'aux États-Unis, on a laissé filer la dette en attendant et en mettant un certain nombre de mesures, notamment de la Banque centrale, afin que les agents privés se mettent à nouveau à investir. En Europe, les plans de rigueur qui ont été annoncés amènent aujourd'hui des questions justement sur cette stratégie, sur vraiment deux stratégies différentes.
Tout à fait, les stratégies ont été très différentes. Elles sont peut-être amenées à se rapprocher. Dans la mesure où en Europe, on a fait de l'austérité à tout craint. C'est la sortie était dans la réduction des déficits budgétaires, dans l'apparition d'excédents budgétaires primaires, c'est-à-dire avant service de la dette, afin d'alléger le poids de cette fameuse dette. Aux États-Unis, la vision était un peu inverse, c'est-à-dire que les États-Unis ont eu l'habitude dans le passé de voir leur dette s'alléger par la croissance. Aujourd'hui, on en est en Europe à se dire que les stratégies que d'austérité budgétaire ne fonctionne pas forcément. On l'a vu pour l'Espagne, pour le Portugal, pour la Grèce, pour l'Irlande. On pourrait le voir pour la France l'année prochaine. Donc on en est peut-être à se dire qu'il faut laisser un peu sa chance à la croissance pour participer à l'allègement de ce fardeau. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas compter que sur la croissance économique pour alléger le fardeau de la dette et qu'il va falloir qu'ils s'attaquent à réduire le déficit budgétaire assez drastiquement. Alors, le débat entre républicains et démocrates, c'est entre est-ce qu'il faut plus de coupes dans les dépenses ou plus d'hausses d'impôts. On verra dans les 3 semaines qui viennent ce qui va être tranché.
Alors du côté des perspectives hein, sur la zone euro, on est clairement sur des questions de récession. On a un horizon là quand même hein, sur les prochains mois qui n'est pas très favorable.
Tout à fait, la zone euro est en récession officiellement depuis la publication du PIB du troisième trimestre. Donc ça, ce n'est plus un sujet de débat, on est en récession. La question, c'est combien de temps elle va durer, quelle va être la profondeur de cette récession. L'aspect positif, c'est comme on le disait au début de notre entretien, que l'aspect stress financier se réduit beaucoup. Donc ça permet d'espérer un redressement de la confiance chez l'entreprise et donc de voir que des projets d'investissement qui ont été gelés, des projets d'embauche qui ont pu être gelés ou des réductions de stock qui ont été peut-être exagérées, on revienne dessus et que ça permette une activité un petit peu plus dynamique. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face non plus. Les perspectives économiques en zone euro, ce n'est pas rose. C'est-à-dire, au mieux, on est sur une stabilisation fin d'année, début d'année prochaine, suivie d'une reprise très 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 molle. Au pire, la récession va se prolonger encore un ou deux trimestres.
Du côté des pays émergents, traditionnellement, c'est vrai qu'avant cette grave crise que l'on connaît, on disait que les pays émergents pouvaient jouer le rôle un petit peu d'amortisseur. Là, on regarde effectivement ce qui s'est passé en Chine ou dans d'autres pays. On a vu que les pays émergents, finalement, faisaient partie de cette mondialisation économique et qu'ils étaient aussi touchés. Est-ce qu'il y a des signaux, notamment en Chine, qui sont peut-être plus rassurants ou plus favorables?
Tout à fait. On a des signes un peu plus positifs en Chine, comme au Brésil, ou dans d'autres économies émergentes comme l'Inde, par exemple, qui montrent que pas de la dégradation de l'activité, puisqu'ils n'ont pas été, le Brésil l'a été ponctuellement, mais globalement, les pays émergents n'ont pas été en vraie récession. Le pire de la dégradation de l'activité est peut-être passé. On a des résultats d'enquête qui commencent à s'améliorer, la distribution de crédit qui se redresse, des indications de production industrielle qui s'améliorent aussi. Donc on est vraiment sur une vraie amélioration. Maintenant, il faut se méfier, c'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000, on pouvait avoir des vraies désynchronisations entre les zones. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans amélioration de l'activité aux États-Unis, en Europe, au Japon, dans les grands pays, grosso modo, la reprise dans les émergents sera modérée, faible, et ne donnera pas lieu à des croissances aussi fortes que ce qu'on a pu connaître. Et de toute façon, un pays comme la Chine ne vise absolument pas des croissances comme en 2009-2010, où ils ont dépassé 10% de croissance. Ce n'est absolument pas l'objectif aujourd'hui des autorités chinoises.
Du côté des perspectives, pour conclure sur l'allocation d'actifs, quand on voit cet environnement macroéconomique, pas facile d'aller chercher du rendement, d'aller chercher, de faire les bons choix d'investissement. Quels sont un peu comment évolue justement votre allocation d'actifs pour les prochains mois ?
Globalement, l'idée directrice, c'est vraiment la diminution du risque perçu par les investisseurs. Et donc, globalement, on favorise des actifs qui sont réputés les plus risqués, c'est-à-dire notamment les marchés actions par rapport aux marchés obligataires. On pense que les marchés actions ont un potentiel de hausse relativement important dans les prochains mois. Les marchés obligataires sont sous pression, notamment les marchés obligataires des États les plus jugés, encore les plus sûrs aujourd'hui, c'est-à-dire États-Unis, Allemagne, certains pays européens autour de l'Allemagne, dont les rendements devraient se tendre un petit peu, pas parce que leur situation se dégrade, mais parce qu'ils ont joué le rôle de refuge, alors que les investisseurs refusaient de prendre des risques. Maintenant, les investisseurs acceptant de reprendre un petit peu plus de risques, ils devraient être défavorisés. À l'intérieur de la poche action, aujourd'hui, on est sur une amélioration de la situation en Europe, de la baisse des risques en Europe. Le risque d'éclatement de la zone euro est sorti de l'esprit des investisseurs, donc plutôt Europe qu'États-Unis. Et dans ce schéma-là, peut-être plutôt les actions des pays ce qu'on appelle périphériques européens, c'est-à-dire sud de l'Europe et Irlande, plutôt que Allemagne, France ou des pays très, très centraux.
Merci Jean-Louis Mourier d'avoir fait le point avec nous. On rappelle que vous êtes donc économiste chez Aurel BGC.
Merci.